Blabla. Ce podcast est une production Blabla Studio.
Bienvenue dans Track Record, le podcast qui donne la parole aux DJ. Je suis Pauline de Saint-Sauveur, je suis journaliste et surtout fan de musique électronique. À travers ce podcast, je vous invite à la découverte de personnalités tout aussi passionnantes que leur musique, à une rencontre sans filtre avec des artistes qu'on entend plus souvent jouer que parler. Alors vous êtes prêts pour un tête-à-tête avec les meilleurs DJ? C'est le moment de monter le son et d'appuyer sur play. Bonne écoute! Bienvenue dans Track Record, le podcast qui donne la parole aux DJ. Aujourd'hui, pour le premier épisode de la saison 2 de Track Record, je reçois le DJ et producteur français Louis, a.k.a. Mougli. Bienvenue à toi et merci de nous recevoir dans ton studio parisien.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Mais je t'en prie, pour te présenter rapidement à ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu as débuté dans la musique électronique en 2013 avec le duo AVAX pour ensuite créer ton propre projet Mougli en 2019. À tes débuts, tu as collaboré avec un autre parisien, Nicolas Sasson, avant d'être signé en 2020 sur le label d'Agoria, Sapiens. Avec lui, tu as ouvert un nouveau chapitre, Prélude, sorti la même année, donc en 2020, qui demeure ta carte de visite, puisqu'aujourd'hui, il affiche plus de 2,5 millions de streams sur Spotify. On y découvre ta capacité à piloter un morceau entre la profondeur des basses et les altitudes des aigus, avec une vaste amplitude élégamment maîtrisée. Cette signature à la fois puissante et aérienne se retrouve sur tes autres succès, comme Alia en 2020 et Himalaya en 2021, mais aussi lors de tes sets que tu as pu faire au T7 à Paris, au Festival Tomorrowland, à Ibiza ou à Tel Aviv. En 2022, tu tournes une autre page plus personnelle avec la sortie de The Other Side, on va en parler, où une voix, celle d'Audrey Johnsens, vient magnifier le titre, tandis que Whispers on the Red Carpet, sur le même EP, marque une direction affirmée vers une techno mélodique travaillée tout en finesse et en variation. Et enfin, mais surtout, Spacer avec Agoria et Noémie, sorti ce 30 mars et qui est parti pour être l'une des comètes de l'été, arrive comme un condensé rempli de potentialités, de l'évolution discrète mais puissante d'un artiste qu'on sent prêt à décoller. Est-ce que ce portrait d'aéroplaneur techno te convient ?
Parfait, trop sympa.
Pour commencer sur une pépite d'actualité, donc, comment est né Spacer ? J'ai lu qu'il avait mis un peu de temps à être lancé.
Ouais, il a mis 3 ans quasiment. La première version, elle date de novembre 2019. Et donc, il n'y avait pas Noémie dessus, j'avais utilisé le master de Sheila. J'avais sorti, du coup, les vocales et j'avais refait toute une instru dessus. Et donc, pour des raisons de droit et puis de qualité de son, j'avais fait écouter ça à Seb, à Agoria, et dans sa voiture, comme ça, après un dîner. Et il m'a fait, ouais, trop bien, trop bonne idée, il faut en faire une cover. Donc, une cover, c'est... Il faut refaire chanter quelqu'un, donc trouver une chanteuse, puis reconstruire une instru autour de ça.
Dont le piano, non, qui est quand même très... Ça, c'est vraiment, c'était ta base un peu de travail, ça.
Ouais, exactement.
On le sent, ouais, dans le
La mélodie, elle est quand même dingue, quoi, du titre original. Et il y avait 2 éléments à garder, les paroles qui sont hyper catchy et le piano. Du coup, pour ça, qu'on en a parlé avec Seb, on a choisi direct Noémie.
Qui est une évidence pour lui aussi, parce que pour info, elle est une des voix très présentes sur l'album d'Agoria. Notamment un morceau qui s'appelle Remedy, où on l'entend vraiment très bien. Un peu une de ses voix favorites féminines.
Non, mais elle a une voix de ouf, c'est une artiste de dingue. Et donc, c'était un peu évident, on lui a proposé, elle était emballée tout de suite. Et donc, on a commencé à travailler avec Noémie en 2020, je crois. Donc, c'était quand même il y a 2 ans, déjà. Donc, première version avec Noémie 2020, qui était plus calme. Et puis après, on est allé vers un truc plus électro. Et puis au final, on a fait plein d'allers-retours. Je pense qu'on a fait... Avec Noémie, on a fait au moins, je sais pas, peut-être 20, 30 versions avec elle seulement.
Wow, ok. Donc, c'était déjà un truc.
Ouais, c'était déjà un truc. Après, cet été, donc, on avait un peu oublié pendant un an. C'était dans un tiroir et puis...
Chacun était un peu reparti faire ses projets et travailler de son côté, ouais.
Moi, j'étais dans un délire beaucoup plus techno et tout ça. Et puis cet été, Agoria rejoue le morceau. Et puis là, ça prend. Et donc, il relance un peu la machine pour que ce titre sorte au final. Et donc après, on a retravaillé la dernière version qui était quand même très proche de celle qui est sortie aujourd'hui.
Et il fallait avoir les droits aussi.
Il fallait avoir les droits. Mais ça au final, comme justement c'était une cover et pas un remix. Parce qu'un remix, c'est quand tu utilises le master.
Tout, l'original, ouais.
Exactement. Là, il y a 0% de l'original.
Donc c'est une reconstruction complète, mais vraiment à votre souhait. C'est pour
exactement.
Ça qu'il est si intéressant, ce morceau.
Et du coup, en plus, on voulait un truc complètement nouveau. Et donc non, en termes de droits, c'était facile. Je sais même pas.
Enfin, c'est pas moi qui m'en suis occupé.
Mais c'était pas le souci, disons, c'était... sur la non, longueur de. Parce qu'il y a des morceaux qui ne voient pas le jour, notamment des compositions électroniques. Ouais. Parce qu'il y a un problème de droit, ou sur la voix, ou sur le master, tu vois. Non, donc là, c'était pas du tout le cas.
Non, non, pas du tout. Et puis en plus, moi, j'y connais un peu rien en tout ce qui est droit et tout. Donc voilà, j'ai pas mis le nez dedans, mais c'était pas le sujet. Et au final, on prend la décision, donc en juillet, je crois, ou en août, de sortir le morceau sûr. Et puis après, là, c'était donc on repart dans les galères de mix, de version, d'aller-retour. Là, il y a encore eu, je pense, 10 versions, mais quand même proche. Hein. C'était très proche.
Et où chacun l'a testé un peu en club aussi,
ouais,
que ce soit toi, que ce soit Agoria.
Ouais. Et en plus, du coup, entre-temps, j'ai fait une autre version, donc qui n'est pas sortie encore celle-là, qui va sûrement sortir dans peut-être 2-3 semaines en fonction, on va voir. Donc en plus, comme j'ai commencé à faire cette version club, il y avait une autre version qui est rentrée en jeu, donc la laisse tomber. 3 mois encore d'aller-retour. Et donc là, c'est bon, c'est sorti le 30 mars.
30 mars, ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais.
Il y a une semaine.
Un titre de dingue. Alors, il y a une version longue, une version radio pour l'instant. Et il y a la version club qui va arriver ensuite.
C'est ça. Et peut-être des remixes, on ne sait pas encore. Il y a quelques artistes qui sont intéressés pour faire des remixes, on verra.
Oui, ça ne m'étonne pas. Vu déjà qu'il a joué, au passage, qu'il y a une musique quand même.
Ouais. Voilà. Non, c'est cool, ils ont fait un gros support avant la sortie. Donc, eux, ils n'avaient même pas la version finale au final. Ils ont une version...
Encore une ? Ah ouais,
encore une autre. Et en plus, du coup, Adam Porte m'avait demandé des modifications sur une version. Donc, j'ai fait 2-3 petites modifs, mais genre que pour eux. Mais comme ça, je suis parti de la version qui était quasiment finie. Et j'ai rajouté 2-3 trucs et je l'ai envoyé. Mais au final, cette version, même moi, je ne l'ai plus. Enfin, laisse tomber.
Ah, c'est genre, oui, c'est la Galaxy Spacer, quoi.
Ouais, voilà.
Il y a plein d'étoiles différentes,
exactement,
mais ça fait la même forme.
Exactement,
grosso
c'est ça.
Modo,
en
c'est
gros,
un peu le truc.
Ça.
Ah, mais c'est énorme. Et bon, donc, si tu as une anecdote sur le titre à nous raconter, c'est une galaxie. Je vais répondre parce qu'il y a eu tellement de choses un peu différentes. Mais c'est génial qu'il soit sorti aujourd'hui. Et franchement, moi, il m'a juste scotché ce titre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, on va le mettre sur la playlist.
Trop bien.
La playlist de l'épisode. On va faire un petit saut dans le temps maintenant, après avoir fait un peu d'espace. Là. On va revenir aux origines de ta passion parce que tu as commencé au départ en étant bassiste.
Ouais, c'est ça.
Donc, rien à voir. Et tu as des inspirations de jazz qu'on sent quand même aussi parfois dans tes morceaux. Donc comment est-ce que t'en es venu à la musique électronique, de la basse et puis du jazz?
Bah, en gros, j'avais des groupes, j'ai eu plusieurs groupes, enfin 2-3 groupes de rock quand j'avais entre 14 et 16-17 ans, où on jouait au Gibus, à la Boule Noire, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi?
Des super belles salles rock. Hein,
ouais, pas mal. Franchement, c'était vraiment un kiff. Et du coup, il fallait s'enregistrer pour faire des maquettes. Et donc, j'ai téléchargé Logic, qui est le logiciel que j'utilise encore aujourd'hui. Et j'ai commencé à enregistrer le groupe. Et puis après, j'ai mis des petits synthés dessus. Et puis, au final, j'ai commencé à faire des musiques entières dessus, mais qui n'avaient aucun rapport. Et puis après, du coup, j'ai commencé à faire de l'EDM. Genre de la rien à voir, quoi. De la progressive de 2013 à Vichy et tout.
C'était l'époque, un peu.
C'était l'époque. Voilà. Et puis, même, il y a des super morceaux, même dans l'EDM, dans tout. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et puis après, j'ai un peu arrêté. Donc, ouais, c'est ça. Avex qui a commencé en 2013, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et après, j'ai fait 1 ou 2 ans un peu on and off. Mais là, c'était vraiment perso. Et après, j'ai repris après mes études, donc plus sérieusement en 2018, on va dire.
Ouais, 2018, et Mowgli, c'est né en 2019, vraiment,
ouais,
le
Mowgli,
projet tel que...
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je faisais des musiques et puis j'ai un pote qui m'a dit, mais il faut les sortir. Et puis, on les a sortis ensemble et il me fallait un nom, donc voilà.
Et les inspirations de jazz, du coup, elles viennent d'où?
Franchement, c'est la musique que j'écoutais. J'écoutais de la soul. J'écoute très peu de musique électronique. Encore aujourd'hui, j'en écoute quasiment pas. Donc... je la fais, j'adore la faire et je trouve ça hyper intéressant, mais j'écoute énormément de pop, du pop rock, indie rock. Jazz, j'ai un peu eu ma période et là, j'ai un peu arrêté. Pas d'écouter, mais enfin, je suis moins dedans. Et là, ouais, je suis à fond indie rock, grave.
Et t'écoutes qui, par exemple, en indie rock?
Arctic Monkeys.
Ouais,
ouais,
d'accord.
Ouf. Black Keys, j'adore. Bah, The Strokes, Virgins.
Block Party, non, c'est pas ton truc?
Non, pas... Je connais, mais j'écoute pas trop.
Ouais, des trucs un peu plus chill, en fait.
Ouais.
Parce que ta musique, elle est l'opposé, elle est quand même plus massive.
Ouais, ouais, bien
sûr. Et t'écoutes des trucs qui sont plus aériens, finalement. Même en termes de rock.
Non, c'est sûr. J'adore faire les liens entre les trucs un peu différents. Tu vois, par exemple, Arctic Monkeys, tu prends Crying Lightning de l'album Humbug. Bah, tu vois, t'as une ligne de basse qui est hyper puissante. Ça, tu la mets à l'électro, tu la mets dans un synthé.
C'est tout, c'est
ça
marche.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a des liens entre tout. Tu vois, jazz. Indie rock, tout ça, c'est, au final, c'est de la musique. Donc il y a de la bonne musique partout. Maintenant, il suffit juste de l'exploiter un peu et de remettre, de prendre le meilleur de partout et d'en faire un peu un truc qui est au goût du jour. Donc moi, j'ai choisi la mélodique techno électro, tu vois. Mais tu peux le faire en faisant ce que tu veux, hein. Il y a plein de musiques qui sont super aujourd'hui, même la pop aujourd'hui, il y a des trucs de ouf qui sortent.
Ouais, qui sont très très bien faits quoi.
Exactement.
Mais en fait, enfin, moi j'ai l'impression que Prélude, quand t'as été donc t'as signé sur Sapiens, j'imagine que Prélude ça a été fait ensuite.
Non.
Ou pas.
Non non, en fait.
Parce que c'est un peu un condensé de plein de musiques pour moi. Ouais. C'est ton espèce de résumé toi. Enfin, c'est un peu ta carte de visite, tu vois.
Prélude, ce qui s'est passé, donc là il y a une anecdote de ouf, c'est que le morceau est pas fini tel qu'il est sorti.
D'accord.
En gros, il est sorti, je me suis fait, j'étais en vacances en Espagne et je me suis fait voler mon ordi sur un parking de supermarché.
Ah la vache, ok.
Et donc on avait cette version-là qui était sur SoundCloud, mais j'avais fait zéro sauvegarde, rien. Et donc j'avais cette version-là sur SoundCloud. Et, donc,
en fait, c'est tout quoi.
Et c'est tout. Et donc j'ai re-téléchargé mon propre titre de mon SoundCloud. À partir de ce morceau-là, on a commencé à l'envoyer en démo à droite à gauche. Même pas à droite à gauche en fait, on l'a envoyé à Seb direct. Seb a dit j'adore, je signe. Mais ce morceau à la base il était pas fini.
C'est fou. Alors tu mais sais en fait, ce que tu partages, ouais, mais c'est marrant parce qu'une autre artiste de Sapiens que j'ai eue pour la saison 1, Kate Zubok, on entend sa fille, parler à la fin de son premier morceau aussi.
Ah trop cool.
C'est complètement, enfin, elle s'est inachevée d'une certaine manière.
Ouais, ouais.
Parce que t'entends, elle est en fait, elle est dans son studio, il y a sa fille qui parle. Et à la fin, elle dit, bah, en fait, je l'ai même pas coupé.
Ouais.
J'ai laissé tel que parce que le morceau était validé comme ça.
Ouais, c'est ça.
Donc il y a quand même sa fille, enfin, tu vois. Vous avez tous les deux des premiers morceaux qui sont en fait des raw, quoi.
C'est ça. C'est en fait, je pense que c'est ça qu'il faut aussi, la puissance du morceau. Parce que après, pendant pas mal d'années, enfin, surtout 2021, j'ai eu tendance à trop bosser mes morceaux, à vraiment chercher vraiment le détail du détail. Et au final, tu vois, quand tu passes trop de temps sur un morceau, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il faut savoir, tu vois, lâcher. Prélude, ça a été hyper simple. Prélude, c'était une version qui était même pas finie. Et au final, c'est ça qui fait, je pense, la puissance du morceau. La ligne de basse et tout, je suis sûr que si j'avais eu le morceau, j'aurais continué à la travailler.
Et tu te serais pris la tête très longtemps et en fait, le morceau serait devenu autre chose et pas forcément le succès qu'il a été.
Ouais,
quoi.
Ouais. Là, il est, en fait, avec le recul, vraiment, ce que j'aime dans ce morceau, c'est que c'est simple. Il n'y a pas beaucoup de pistes, il y a peut-être 16 pistes, même pas, peut-être 15.
C'est pas si énorme, ouais.
Pour un morceau qui sort aujourd'hui, c'est quasiment rien. Avec, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais tout ce qui est FX, layers et tout, c'est vraiment quasiment rien.
C'est simple.
Ouais, c'est hyper simple. Et non, je pense que c'est ça qui fait en vrai le truc du morceau.
Et on va y revenir pour ton dernier EP où justement, moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour un peu à ça, où tu reviens dans une certaine simplicité après être monté un peu en puissance sur les EP suivants, notamment Himalaya qui était très 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 puissant aussi. Et il y a eu un peu une montée à partir du moment où tu as été signé. Enfin, moi j'ai l'impression t'es signé sur ce label et puis là t'essayes de développer pas mal de choses, mais beaucoup dans la réflexion. Est-ce que c'est un peu comme ça que ça s'est fait, en réfléchissant
c'est
dans une direction,
ça.
Un EP, etc.
Ouais, c'est ça, c'est exactement comme ça que ça s'est fait. En fait, donc déjà avant, je travaillais dans la finance à Londres, donc aucun rapport.
Oui, donc t'étais pas artiste vraiment. C'est
pour
ça que je posais la question, qu'est-ce que Sapiens a changé? Moi j'ai l'impression que ça a vraiment changé un truc dans ta façon de penser.
En fait, je travaillais à Londres jusque, je crois, j'ai posé ma dème le 12 mars. Genre, j'ai eu la réponse de Sapiens, je pense, on va dire le 4 mars. Une semaine après, j'avais posé ma dème parce que c'était un peu le moment pour moi. Je me suis dit, bon, allez, go. Genre, Sapiens, c'est un label trop cool, bien crédible et tout. Agoria, c'est un artiste de dingue. Enfin, c'est une légende, en vrai, de la musique électronique française.
Coucou Sébastien, si tu nous entends. Parrain du podcast aussi, donc oui, on est d'accord.
Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, je devais avoir 24 ans à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai pas d'appart. Go,
c'est le moment, ouais.
Ouais, c'est le moment. Donc, je lâche mon appart à Londres, je rentre à Paris. 3 jours après, donc je rentre à Paris le 12 mars, je me souviens très bien, 14 mars, confinement annoncé. Meilleur moment pour se lancer en tant que
c'est
DJ,
clair.
Bref. Donc, au final, 6 mois ou 7 mois, rien foutre chez moi. Donc, prod, studio toute la journée. Enfin, studio, home studio à ce moment-là. Donc, j'ai fait full musique que ça. Et donc là, c'était cool parce que c'était un peu, je cherchais pas un label en particulier. Et comme il se passait rien, j'étais juste dans un processus créatif de chercher mon son.
Et pas dépendant du regard des autres ou d'un set que t'aurais fait où tu dis j'ai tel retour, donc le morceau, je vais le changer comme ça. Un peu ce que t'expliques sur Spacer maintenant. Quoi.
Ouais, c'est exactement
j'ai eu
ça.
Telle personne qui m'a dit ça. Là, t'étais vraiment à te construire
tout seul.
Tout seul.
De toute façon, il y avait personne qui m'appelait pour venir mixer parce que mon projet, il venait de commencer. Donc pas de stress à ce niveau-là. Pas d'attente parce que il se passe rien dans l'industrie, point mort. Et Prélude qui à ce moment-là commence à bien marcher, enfin organiquement, tu vois, Spotify, ça a pris tout seul, ça a été mis dans les playlists et donc ça a pris direct, je sais pas, en 6 mois on avait quasiment 500 000 streams. Donc pour un premier morceau solo sorti, c'était surtout dans la musique électronique,
puis
dans
la pop. Surtout quand on sait comment il a été fait, voilà.
Ouais, c'est ça.
Question
c'est un morceau pas fini.
C'est le truc qui marche tout seul.
Ouais. Non, donc trop cool.
Et c'est qu'il fallait que tu ailles, quoi.
Ouais, que... donc voilà, Covid, confinement, expérimentation, je me suis mis à fond dans la prod. Et donc là, j'ai mis du temps à trouver mon son. Une fois que j'avais trouvé, je sors, donc le deuxième EP, c'était Alia.
Alia.
Ouais, donc j'avais quand même ce truc où j'étais parti un peu plus dans une mélodique techno, un peu style Afterlife, Tale of Us, mais j'avais quand même, tu vois, l'EP, c'est trois tracks, Alia, il y en a une, la première, donc Alia, qui est hyper mélodique techno, ouais. Aludra, qui est genre mélodique techno aussi, et t'as la dernière, qui est un truc limite Afro House, donc tu vois, j'étais vraiment encore... Je me cherchais encore un petit peu.
Mais t'as toujours, c'était, moi je trouvais qu'il y avait toujours l'équilibre. Après, t'étais très dans les vocales un tout petit peu ethniques et tout.
Exactement,
ça.
Ouais,
mais
ça.
Ton équilibre, ça a toujours été ta ligne de base.
Ouais,
c'est le fait que t'arrives
base,
à mettre un aigu qui soit, comment dire, juste entendable.
C'est ça.
Mais qui soit pas, enfin, qui aille pas dans de l'afterlife où c'est carrément...
Ouais, ouais.
En fait, c'est fait pour t'agresser l'aigu, mais c'est fait pour ça.
Ouais,
là,
ouais.
T'as vraiment, c'est pour ça que je t'appelle l'aéroplaneur, mais t'avais cet équilibre et quelle que soit la direction que tu prends, tu le gardes en fait.
Non, ça c'est
intéressant.
J'ai toujours été hyper focus sur la ligne de basse qui sonne un peu Moog. Bon, même si, bon, j'ai mon Moog qui est là, tu vois, mais je triche un peu, je fais pas mal de VST, tout est sur VST quasiment.
Okay.
Donc tout est dans l'ordi. Je prends très peu de son analogique parce que je trouve ça plus compliqué qu'autre chose, la prise de son. Après, tu dois le traiter 10 fois.
Ouais.
Chacun son processus, tu vois. Il y en a qui arrivent à le faire très bien et tant mieux.
Ouais, moi, ta base de création, c'est pas ça. C'est pas ça qui te nourrit,
ouais,
ou qui te permet de faire,
non,
quelque chose qui
pas
te branche.
Je suis pas spécialement un puriste de l'analogique. Genre, le digital, ça marche très bien. Donc, ouais, j'ai toujours essayé de garder ce côté basse qu'il y avait dans Prélude. Et en fait, ça n'a pas été un choix vraiment. À aucun moment, je me suis dit, il faut que je fasse comme ça. Mais, genre, après Prélude, je sors cette EP où il y a quand même cette basse qui est là. Et puis après, je sors donc Niagara, un troisième EP sur Sapiens. Je crois que c'était 2021, ça. Je ne sais plus, ou peut-être 2020. Je sais
pas. On remettra toute ta disco dans les notes. Parce
ouais.
Que même nous, y a eu, je sais qu'il y a eu Niagara, c'est 2021.
Ouais, 2021, voilà. Et voilà. Donc, sur cette EP-là, il y a Itza.
Itza, c'est ma préférée.
Ouais, bah c'est d'avant. La grande sœur de... En fait, c'est un prélude achevé, tu vois. C'est
okay.
Le prélude que j'aurais fini
parce
avec
que moi,
un peu plus de violon.
C'était ma préf de toi avant le dernier EP.
Ok.
C'était pour moi, c'était vraiment là. Il y avait prélude, effectivement.
Ouais.
Et Itza, pour moi, qui était l'aboutissement de ce que tu...
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Exactement. C'est exactement ça. C'était un peu la grande sœur de prélude.
Alors qu'Himalaya, c'est plus massif.
Ouais,
plus...
ouais, ouais. Exactement. Himalaya, c'est plus club. Je trouve ça un peu moins élégant.
Mais ça a bien
catchy.
Marché.
Ouais, ça marche bien. Franchement, elle marche bien. C'est pas du tout ma préférée. Par exemple, Niagara, je la trouve beaucoup plus élégante. Himalaya, c'est cool. C'est club, ça marche. Tu vois, la vocale, elle est catchy, mais c'est pas ma préf.
Ouais, ça se comprend.
Ouais.
Mais là, t'étais pareil dans un peu une expérimentation.
Ouais.
En trois temps sur un truc.
Ouais, ouais, exactement. Après, du coup, je sors. Donc là, après, je rentre dans une spirale infernale de mélodique techno, et je voulais absolument signer Afterlife.
D'accord.
Donc là, je me suis un peu enfermé pendant un an et demi, puisque les geeks tournaient, donc je tournais un petit peu, mais j'avais ce truc de... Je me suis enfermé dans un truc où vraiment, je voulais absolument signer Afterlife. Donc je faisais que des musiques comme ça, je me suis un peu perdu. Je trouvais ça, au final, beaucoup moins intéressant musicalement parlant. Bon, au final, j'arrive à signer avec un petit voicemail que j'ai fait avec un pote, Josh.
Mais une fois que tu l'as fait, tu t'es dit tout ça pour ça ou pas?
Ouais, exactement.
Ouais.
Au final, je me suis dit, non, ça a été cool, ça m'a apporté plein de trucs et c'est bien pour la visibilité, c'est bien
ouais,
pour le projet.
Ouais, mais The Other Side, c'est plus pour toi, par exemple.
Ouais, exactement.
On est d'accord,
et donc,
on va en parler.
The Other Side, j'adorais ces tracks. En fait, ces tracks-là, je les avais faites bien avant que ça sorte, genre un an avant, tu vois. J'avais commencé des bases et donc je m'étais dit, cet EP, il est trop bien, mais je veux release d'abord Afterlife et après je sortirai ça. Parce que je trouvais que sortir ça avant Afterlife et après revenir sur un truc qui tabasse...
C'était pas cohérent.
C'était pas cohérent. Donc j'ai attendu. En plus, j'avais ce titre-là, The Other Side, avec Audrey, que j'adore. Que j'adore la chanteuse, en plus, c'est une pote
ouais.
belge qui a une super voix.
Bah, c'est un peu ta Noémie, on dirait.
Ouais.
Pour la voir.
Exactement.
C'est rigolo.
Elles ont des voix hyper proches. Ouais, ouais, c'est vrai.
Et du coup, t'as fait voicemail, tu t'es dit,
ça c'est fait.
Allez, maintenant, on va aller dans ce que je. Enfin, on va poursuivre ce que
vraiment.
Je veux vraiment faire, moi.
Ouais. Ouais. Donc, en fait, je suis pas très bon pour trouver des labels et tout. Donc, j'ai galéré un petit peu. Je savais que l'EP était bien. J'avais la troisième Noise Legacy que j'adorais. Genre. C'est hyper inspiré de Just of Time, c'est des potes à moi, des Italiens
ouais.
D'Afterlife et tout, qui ont fait un titre qui s'appelle Dream Vision.
Oui, je vois.
Ok, tu vois le titre et donc
oui.
C'était hyper inspiré de ça.
D'accord.
Mais un petit peu moins mélodique techno quand même, tu vois, un peu plus planant. Genre, si tu veux, un peu un mix entre Dream Vision et ce serait un remix de Dream Vision par NTO, tu vois.
D'accord, ouais.
Et
le côté encore un peu
ouais.
plané, mais pas trop.
Pas trop, ouais.
Pas trop dans les aigus et pas de
baisser.
C'est à chaque fois ce que tu cherches.
Et donc, là, ouais, là, et donc, pareil, même basse que Prélude, que Itza.
Mais comment t'as sorti l'EP du coup?
J'avais pas de label, on fait une liste de labels avec mon manager. Et on se dit, en premier, il y avait Aine Music, un petit label berlinois, enfin, non, pas si petit d'ailleurs.
Pas si petit, ouais. Petit mais costaud.
Ouais, petit mais costaud, un label indépendant berlinois donc, qui a été monté par Samuel de Aine Music, du coup. Et je sais pas, je vais voir sur Instagram un peu comment les contacter. Là, je vois que NTO, Anto les suit et les connaît, donc du coup, je l'envoie à Anto et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ça pour Aine Music? Il dit, ah, ce serait top, il lui a envoyé, puis deux jours après, c'était signé, quoi.
Ouais. Donc, encore rapide, un truc qu'ils devaient faire, quoi.
Ouais, et trop bien. Au final, la sortie se passe très bien. Ça fait pas... Je pensais que ça allait être playlisté et que ça marcherait mieux, mais ça a pas hyper bien marché en termes de stream, mais je suis ravi de l'avoir sorti, quoi.
Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va revenir, en fait, grâce à Spacer.
Je pense, ouais.
Parce que Spacer, pour moi, c'est la plateforme pour ouais, celui-là.
Exactement, ouais, je pense.
C'est comme s'il y avait eu besoin... Enfin, c'est pas besoin, mais ouais, ça correspond à une identité que t'as déjà.
Ouais.
Et qui, à mon avis, c'était pas exprimé avant, et les gens te cherchent pas pour ça.
Ouais, ouais,
sauf
ouais,
qu'après Spacer, ils vont te chercher pour ça, du coup.
Ouais, je pense que ça.
Bah, d'où Aine Music et tout. Enfin, ça paraît cohérent,
ouais,
en fait.
Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et donc là, depuis, je sais pas, 6 mois, je me suis mis à fond dans un truc qui a aucun rapport. Je fais de l'électropop là en ce moment. Je sais pas pourquoi.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, genre,
et t'es parti à Ibiza faire ça ou ça avait aucun
rapport ?
Non,
c'était plus en revenant. Ibiza, j'ai fignolé bien l'EP parce que je suis allé à Ibiza en mai. Donc j'ai fignolé l'EP The Other Side. Et après, je sais pas, j'ai fait plein de trucs différents. J'ai fait de la techno un peu hard. J'ai fait de la mélodique. J'ai fait des trucs... J'ai fait un peu de tout, en fait.
Mais t'as été là-bas pour... Parce qu'à l'époque, moi, je sais qu'on avait commencé à parler avec ton management pour justement qu'on puisse se voir.
Ouais.
Et ils m'ont dit que t'avais été là-bas aussi pour être reposé et bosser et trouver d'autres directions,
exactement,
etc. C'était un peu ça ? Parce que t'es resté assez longtemps, en fait.
La base de base, j'ai bougé mon studio là-bas pour faire un album. Sauf que pour avoir un album, il faut avoir une DA. Et j'étais en mode complètement du père. Je venais de sortir Afterlife, j'étais ravi. The Other Side allait sortir. À ce moment-là, Spacer commençait à revenir dans les discussions et tout. Donc, j'étais un peu en mode, bon, trois trucs complètement différents.
Ouais, je peux pas faire un album
là. Là, je peux pas. Je suis complètement perdu. Donc, je vais juste faire de la musique, kiffer. Et puis voilà, j'ai fait plein de sons que j'ai adorés. J'ai fait, je pense, en 6 mois à Ibiza, j'ai dû faire quasiment 30 démos, tu vois.
Waouh, ok.
30 musiques, mais finies, genre de A à Z. Mais tu vois, ça va de la hard techno à 135 BPM à... un truc un peu genre Kenny Music, tu vois.
Oui.
Ah, genre de la Deep House, chill. Donc,
un
voilà.
Petit 120. Tout petit.
Ouais, exactement. En passant par l'afro, en passant par de la pop, plein de trucs. Et là, depuis que je suis rentré, je sais pas, j'adore me poser avec des chanteurs ou des musiciens et juste faire de la collab sans... Au début, ça part toujours sans... Tu vois, sans stress ou sans vraiment d'idées. Et ce qui en sort, c'est j'adore, moi, en ce moment. Donc, en vrai,
ouais, parce qu'à Paris, tu trouves pas qu'il y a un peu... Enfin, moi, c'est une impression qu'il y a une scène électro qui est vraiment en train de bouger beaucoup.
Ouais, dingue.
Notamment, bon, après, toi, t'as été à Londres aussi.
Ouais, ouais, ouais.
J'ai l'impression qu'il y a un effet un peu Brexit, bizarre sur la
c'est
musique.
Ça.
Post-Covid aussi, machin, où, en fait, les gens viennent et produire de la musique et jouer à Paris. Alors qu'avant Covid, on n'avait pas telle activité.
Non.
On n'avait pas de chanteurs de cette qualité-là. Enfin, ils étaient tous ou à Londres ou à Berlin ou à Amsterdam aussi, beaucoup. Certains, donc à Lisbonne, en Espagne et tout ça. Et l'impression que là, tout le monde vient ici.
Ouais,
c'est
ouais,
un peu ton cas, enfin, c'est un peu ce que tu sens ou...
Mais dingue, là, ça bouge grave. Moi, je rencontre plein d'artistes qui sortent de leur terrier, j'ai l'impression.
Mais c'est un peu ça.
Et c'est comme un peu... Enfin, ce serait une French Touch V3 un peu, tu vois. Il y a eu la
exactement,
V2 déjà. Là, t'as la V3 qui est, bon, musicalement complètement différente, mais tu vois, t'as des producteurs de ouf. T'as Notre-Dame qui a sorti Yumi, là, hyper fort. T'as Roman Keen qui est signé sur Sapiens aussi, qui est un de mes meilleurs amis maintenant et qui est un artiste de ouf. Il y a Bettical, bon, ils sont lillois, mais tu vois, dans un truc plus mélodique techno, un truc plus allemand, j'ai envie de dire, en termes de musique, ils font de la musique de ouf.
Ouais.
Enfin, il y a plein d'artistes, même à Marseille, tu vois, t'as Lossless, t'as plein d'artistes de ouf qui font des bêtes de musique et c'est trop bien.
Et toi, il y en a avec qui, enfin, t'as déjà travaillé là, de bah, Audrey dont tu m'as parlé, mais il y a des...
Alors Audrey, elle est belge.
Ouais, donc elle est pas complètement...
Elle est pas complètement, mais on adorait qu'elle soit parisienne.
Ouais, et il y a d'autres artistes avec lesquels t'as bossé
ouais,
récemment,
bah,
où t'as rencontré...
Anton, qui s'appelle...
Oui, Roman Keen.
Ouais, Roman Keen.
J'ai rencontré la semaine dernière aussi.
Ouais.
C'est super cool. Ouais.
Ouais, trop cool. Franchement, c'est un artiste de ouf.
Ah ouais, ouais, ouais. C'est comme toi. C'est les rampes de lancement. Tu voilà. sais, les deux là.
Je pense que lui, ça, c'est le futur Monolink ou quoi, tu vois. Genre, il a une voix de ouf. Son live, il déchire. Non, c'est trop bien. Et donc, avec lui, on a fait pas mal de musique. Il y en a une qui est finie. On en a fait 3-4 autres qui vont, je pense, jamais voir le jour, mais qui sont trop bien.
Ouais, c'était une évolution pour deux de bosser, ouais, de voir ça. Là où chacun veut aller en travaillant ensemble. Quoi.
Non, il est venu à Ibiza passer une semaine à la maison. Et puis, on a fait plein de musique et il vient tout le temps au studio. Enfin, c'est trop cool.
Bah on est d'accord qu'il y a vraiment une scène à Paris.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, c'est pas non
Même
plus...
Même Nicolas, tu vois, Sassin, avec qui j'ai sorti les premiers EP, il fait un bête de travail aussi dans une industrie qui est différente, tu vois, mais...
Ouais, mais avec aussi, aussi il a un groupe d'artistes.
C'est ça, voilà, exactement. C'est il a un autre crew, donc avec genre Mojo, Nico D'Andrea, tous ces gens-là, que je connais beaucoup moins, mais...
Mais ça fait du monde, en fait, au même endroit.
C'est franchement,
c'est
ouais.
surtout ça. Après, c'est des crews différents, mais tout le monde est quand même à Paris et tout le monde parle avec tout le monde et voit ce que fait tout le monde et essaye de chacun un peu faire son truc.
Non, c'est trop cool.
Donc, c'est vrai qu'on a quand même de la chance, finalement,
ouais.
par rapport à Berlin et tout.
Ça a mis du temps, tu vois, ça a mis...
Post-Covid, imagine. Il y a un truc qui s'est passé après, et plus le Brexit.
Ouais.
Mon avis, c'est l'effet des deux,
ouais,
parce
non,
qu'on n'avait pas d'artistes comme ça, et jeunes en plus.
Mmh.
On avait plutôt des artistes plus âgés, il y a toute la génération du Rex,
c'est
un
ça.
Peu, où on avait un peu cette scène-là. Et depuis eux, il n'y a pas...
Il y a eu un petit trou de 10 ans, tu vois.
Ouais, 15.
Ouais, 15 ans. Entre Laurent Garnier, Seb, tous ces mecs-là, et Bob Sinclair, toute cette génération-là,
et maintenant.
Nous... Il s'est passé des trucs, t'as quand même eu Justice.
Ouais, mais c'était des épiphénomènes
ouais,
très puissants.
Mais très très puissants.
Mais c'est genre une
t'as
comète
The
qui
Blaze.
Passe, quoi. Oui, The Blaze, ils sont incroyables.
Un ovni, quoi.
Mais pour moi, ils appartiennent à la même.
Ouais,
ils
ouais.
étaient déjà en germe avant
ouais,
et ils
ouais,
sont arrivés pareil. Ils ont explosé juste avant le Covid.
Oui, ça a 10 ans de plus, quand même. Enfin, eux, leur musique a 10 ans de plus, leur projet est plus ancien, tu vois.
Mais leur succès, non.
Ouais,
finalement.
Leur succès, c'est vrai. Ouais.
T'as une espèce de demande un peu intéressante sur, en France, je trouve, sur des projets un peu alternatifs qu'on n'avait pas du tout avant et qu'on arrive à garder. Quand tu vois que les États-Unis sont en train de te balancer des. Pour eux, l'électro, c'est limite un business.
Ouais, ouais. C'est un truc de ouf.
Ouais, t'as vu qu'Amélie Lenz c'était signé chez CIA et tout
ouais,
ça.
C'est ça
devient un truc, mais.
Ouais, ouais. Même, tu vois, la programmation de Coachella, maintenant, t'as tout ce qui était il y a 5-6 ans un peu underground et qui est devenu maintenant complètement mainstream. Tu vois, les gars de Kenny Music.
Ouais.
Black Coffee, ça s'est jamais voulu.
Non.
Très underground.
Non.
Mais ça, c'était quand même dans des progrès qui avant étaient plus underground.
C'est vrai.
T'as Colin qui sera là-bas, t'as Monolink, t'as plein d'artistes qui se veulent d'étiquettes.
Ah oui, Monolink, il veut pas du tout être commercial,
non.
mais il va quand même à Coachella. Mais c'est parce qu'il a, en fait, il a les moyens aussi de faire le live qu'il veut, par exemple.
C'est ça.
On lui donne tous les moyens qu'il veut, donc pourquoi
ouais.
est-ce qu'il y va pas, tu vois.
Non, c'est
il y a
ça.
Aussi ça, c'est que ça donne des moyens à l'underground qu'il n'a pas.
C'est vrai.
Donc, c'est toute la limite de savoir est-ce que t'es underground ou pas. Ce qui me met à ma question suivante, magnifique. T'as un truc que je trouve très bien, en plus d'être, comme tu l'as expliqué, qu'il y a une constance depuis le début dans ce que tu fais en termes musicaux. T'as aussi une constance un peu d'être quelqu'un d'assez discret,
ouais.
qui travaille avec d'autres artistes, mais alors plutôt discrètement, tout ça.
Tranquille.
C'est ta philosophie, c'est pas genre je le fais exprès.
Moi,
quoi.
Le projet Mowgli, on veut qu'il soit un peu discret. Je cherche pas, je suis pas influenceur, tu vois. Donc
non,
les réseaux,
ça.
Je pense quand j'ai un truc à dire, ou quand il y a des trucs cool qui se passent.
Mais t'es pas une marque, t'es un projet
non,
électro.
Ouais, c'est ça. Ça,
et on, ça, tu veux le garder comme
ouais,
ça.
Ouais, ça, je veux garder vraiment musique. Et alors que dans la vie de tous les jours, je suis tout sauf discret. Genre, ceux qui me connaissent savent que non, je suis pas discret comme personne, mais
ton identité d'artiste, elle doit
ça,
être comme
ouais.
ça, parce que pour toi, c'est comme ça que la musique doit évoluer.
C'est ça.
C'est un peu, c'est une question un peu globale, mais que tout le monde pose,
ouais.
parce qu'on a un peu ce choix en tant qu'artiste en de dire bon, il va falloir quand même que je. T'as vu cette Troxler, ce qu'il a, il est génial avec ses
ouais.
caricatures là. Il avait posté un truc en disant bon. La vie des artistes dans les années 80, sexe, drugs, rock and roll et dans trois trucs, et musique. Et les années 2000, social media, 80%, musique, 20%.
C'est ça, non mais c'est.
Donc toi, t'essayes de faire plutôt l'inverse.
Ouais, l'inverse. J'ai jamais acheté un follower sur Instagram, c'est pas le but. Là, je fais un effort parce que je sais qu'il faut, donc je fais en sorte de poster plus. Mais...
Merci Louis d'être au micro.
Mais c'est pas le focus. Au même titre que DJ set, j'adore tourner, mais c'est pas à terme, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de créer de la musique et.
Oui, t'es plus. Mais t'es en fait, toi, t'es un producteur et un créateur de son.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé à être DJ parce que je produisais et que ok, je compte pas être une marque et je veux vraiment être musicien. Mais quand même, faut pas être.
Il faut tourner un minimum parce que
ça,
sinon on voit pas ton projet, sinon on peut pas te contacter pour travailler
Exactement.
Avec toi parce qu'on sait pas que t'es là.
Pour
donc
vendre
sur
la musique, il faut vendre aussi. Il faut vendre un peu son nom et puis il faut se faire connaître. Et donc au début, ça passe par les DJ sets. On ouais. est obligé, c'est comme ça que ça marche.
Mais ça, fin, t'as un souvenir de DJ set récent sympa, par exemple?
Bah oui, grave. Moi, j'en ai plein. Tomorrowland, c'était ouf. Je m'éclate hein, quand je mixe. Franchement, même il y a 3-4 jours, j'étais à Toronto. C'était trop sympa. C'était un petit club underground. Il y avait genre 300-400 personnes. Mais la vibe était ouf, tu vois. Aussi Voodoo Village, ouais. j'ai adoré mixer.
Bah, c'est un set à toi qui est sur SoundCloud. D'ailleurs, ouais, si les gens veulent un peu découvrir ton univers en set,
c'est ça.
Bah, j'ai trouvé qu'il était très assez représentatif.
Ouais, il y a un peu de tout. J'ai mis un peu, je me souviens, j'avais joué un peu de Daft Punk, un peu de limite trance années 80 et pas mal de mélodiques techno. Non, il y avait un peu de tout.
Ouais. Ouais, donc c'était
j'aime bien mettre un peu de tout, moi.
Non, mais en plus, ce qui est bien, c'est que là, tu tombes pas dans le danger d'autres artistes qui sont obligés de tourner tout le temps et qui, en fait, non. se lassent de jouer parce qu'ils ont une date, mais tous les deux jours et qu'ils en peuvent plus. Alors, toi, au moins, t'en as, c'est rarement. Donc, quand tu y vas, tu t'éclates et tu fais le truc à fond, quoi.
Ouais.
Donc, ça, c'est plutôt cool.
Récemment, ce mois-ci, il y en a eu beaucoup, mais normalement, c'est genre max 3 par mois, quoi.
Oui, non, mais ça, c'est assez. On te voit assez rarement sur sur des enchaînements de tournées, quoi.
Non,
festival, c'est encore autre chose.
Ouais, festival, j'adore. Parce que c'est un autre mood. J'adore mixer par exemple, en Belgique, le festival de mes managers Hangar. Ça, par exemple, les prods, elles sont ouf. Tu vois
famille aussi, Hangar.
Ouais, pour moi, c'est vraiment c'est la MIF. Vraiment, c'est mes meilleurs potes. Et puis, on a été. Ils m'avaient booké, du coup, aussi quand ils ont fait Tale of Us à Bruxelles devant l'Atomium. Ça, c'était un set énorme. Je venais de commencer, donc sorti de Covid. C'était le premier set, c'était le premier concert, premier festival de Belgique. Post-Covid.
Et c'est ta première apparition en tant que Mowgli, en fait, aussi.
Ouais, quasiment.
Vraiment.
Franchement, de vraies scènes, ouais.
Oui.
Et donc, c'était la rentrée des classes, un peu, pour moi, tu vois. Donc,
c'est ouf.
Mais c'était la première grosse scène. J'arrive, j'avais déjà mixé dans des clubs, tu vois, mais peut-être, grand max, 300 personnes, ou peut-être 400. Et enfin, franchement, je pense même pas. Et là, j'arrive, sortie de Covid, et il y a un truc, je sais pas combien il y avait de tickets, peut-être il y avait genre 8000 tickets, tu vois.
Ouais. Et donc, on comprend ta passion Afterlife après, en fait, d'où ça vient.
Ouais.
Je commence à capter le raisonnement. Parce que tu fais ça, après, tu te dis, mais c'est pas possible.
Ouais.
Quoi.
Et puis, c'est surtout aussi, là, en ce moment, en termes de marque, c'est la marque la plus forte aussi d'event. Donc, c'était aussi, c'était un peu musical. Je continue à aimer, tu vois, ce genre de musique, mais c'était surtout pour le projet, quoi.
Non, c'est clair, ça se comprend. Et parlant de pas de musique, justement, qu'est-ce que t'écoutes quand c'est pas de la musique?
J'écoute pas grand-chose.
Rien.
Des podcasts, tu veux dire, par exemple?
Non.
Franchement, pas
toi,
trop.
Toi, t'étais silence, quoi.
Ouais.
C'est peut-être pas plus mal en même temps.
Ouais.
On peut laisser un peu de place pour.
Exactement.
Sans bruit.
Non, j'ai jamais, même pendant mes études, jamais fait partie des gens qui mettaient des bruits de pluie, tu vois. Tu connais pas ça?
Si.
Il y a des mecs qui mettaient des bruits de pluie pour travailler à la
ou pour dormir aussi, quand t'as des problèmes de sommeil, ouais.
Non. Moi, j'ai des problèmes de sommeil. Enfin, je galère à m'endormir parce que, je sais pas, mon cerveau, il est en boucle, mais. Non, je mets pas de bruit de pluie ou de ou de glace ou de vent.
Ouais.
Non, j'écoute que de la musique.
Ok, même pas. Ouais, mais en même temps des paroles de n'importe quoi, rien.
Non, franchement rien. Podcast de cuisine, je pourrais, j'adore la cuisine, mais tu vois, je passe 2 heures par jour quand je me réveille ou avant de me coucher sur Facebook à regarder des vidéos de Top Chef. Donc en vrai.
Ouais, c'est un peu ton podcast de cuisine
Ok.
Non, mais c'est un peu différent. Et en plus, vu que déjà, quand tu ne fais pas d'électro, t'en écoutes pas,
ouais, non,
ça paraît
pas
logique.
Ouais.
Bah, ça paraît logique par rapport au, tu vois,
ouais.
à ta démarche musicale. C'est vrai que c'est un peu cohérent. Et quels sont les projets à venir? Parce qu'on arrive à la fin de l'interview.
Ouais. Les projets à venir, je fais plein de musique avec Noémie encore. Mais ça, c'est plus pour son projet. Je fais de la musique aussi avec un mec qui s'appelle Félix du duo Lipka. Vous pouvez aller écouter. D'ailleurs, ils n'ont pas sorti grand-chose récemment, mais je suis tombé dessus par hasard. Ils ont sorti un truc en 2016. Je suis tombé dessus cet été. Je leur ai envoyé un message en mode j'adore, je veux faire un remix. Et puis au final, ils m'ont envoyé les stems. J'ai fait un remix que j'aime pas parce que le morceau original est mieux.
Ok.
Et donc.
Au moins, tu le reçois bien. Tu te dis, ok, donc finalement, j'aime pas mon truc.
Ouais, enfin, ça vaut pas la peine si c'est moins bien, tu vois.
Non.
Et donc, du coup, on est reparti sur des trucs nouveaux. Ouais, c'est ça. J'ai envoyé, du coup, la démo de 3 tracks à un label que j'aimerais bien signer. Un label français de French Touch, de ouf. Mais bon, bref.
On ne dira pas ce que c'est.
On ne dira pas, voilà. En plus, c'était une démo. On sait pas. Je croise les doigts pour que ça passe. Quoi.
Ça marche. Si d'ici à ce que l'épisode sorte, on s'est sorti, on vous mettra le lien.
Voilà. Coup. Mais ce sera pas sorti.
Ah, tu penses? Non, mais non, comme à chaque fois, ça met 3 jours.
Ouais, ça met 3 jours à signer. Mais après, entre le moment où c'est signé et le moment où ça sort.
Bah, après, ça t'a dit que la dernière fois, ça avait mis 2 semaines à sortir le morceau. Donc, tu sais jamais.
Ouais, ça, c'est vrai que c'était rapide. Mais bon. Le The Other Side était hyper rapide.
Voilà.
Ça, c'est vrai. Et pour projet, là, il y a l'été qui arrive. Je pense que je vais aller me reposer à Ibiza.
Reposer ou jouer aussi?
Non, reposer, quand je dis, c'est pas reposer, repos, c'est reposer.
D'accord.
Je vais aller reposer mes affaires là-bas.
Oui, et refaire du son, du coup.
Voilà, exactement. Et là, je pense que j'ai un peu plus une idée de ce que je vais faire. Okay. J'ai essayé de commencer l'album là-bas.
Enfin.
Ouais.
S'il se passe pas encore autre chose entre temps.
Non, il se passera rien là. Là, il y a Spacer, okay. Je vais laisser le truc suivre son cours et j'ai déjà 3-4 EP tout prêt.
Donc, ouais, il y a plus là, de. Là, peux passer au chapitre
du label,
d'après.
Là, maintenant, c'est à Marvin, mon manager, de gérer.
Ok.
Big up.
Oui, et merci Cameron aussi, parce qu'à deux, il gère très très bien.
Ouais.
Et on va finir avec une question reverb, parce que nouvelle saison, nouvelle question. Mm-hmm. Est-ce que toi, t'as une question à me poser, ou à te poser, du coup, que j'aurais oublié?
Tu fais quoi cet été?
La même chose que toi, potentiellement.
Bon, bah voilà.
Non, c'est vrai en plus. Me reposer à Ibiza pour la 13e fois consécutive.
Bon, bah trop bien.
Donc, si. C'est... Et aussi pour l'inspiration
gros
musicale. Gros programme, ouais.
Trop bien.
Merci beaucoup, Louis. C'était
merci
un plaisir
vous,
d'ouvrir cette deuxième saison de Track Record avec toi. On te souhaite le meilleur pour la suite, pour Spacer et pour tes nouveaux projets.
Merci beaucoup. C'était trop cool.
Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre et à nous partager sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi mettre des étoiles pour dire que vous avez beaucoup aimé. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram @trackrecorddj pour découvrir la playlist de notre invité ainsi que des contenus vidéo inédits. À très vite pour un nouvel épisode de Track Record.